Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, 19 novembre 2022. Salut Germain.
Bonsoir Antoine. On se dit bonsoir parce que je pense qu'on peut mettre les gens en contexte. Normalement, on enregistre l'émission de radio le vendredi matin pour être le plus près possible de la date de diffusion. Mais comme nous avions tous les deux un horaire, c'est plus que chargé, c'est surchargé.
Ouais.
Nous enregistrons à 23h30, jeudi soir.
Voilà. Alors,
pourquoi pas?
Il se peut que nos yeux soient un petit peu plus petits qu'à l'habitude.
Oui.
Cela étant dit, vous le verrez pas parce qu'on est à la radio. Alors, c'est une bonne nouvelle.
C'est la magie de la radio.
Bon, une nouvelle qui circule depuis maintenant quelques jours. Imperium, on a des nouvelles sur ce constructeur-là. Dans le guide de l'auto, vous pourrez retrouver le véhicule sous la marque IMC parce que Imperium est un nom qu'on ne pouvait plus officiellement utiliser. On est en cours pour l'utilisation de ce nom-là. Alors, temporairement, on avait choisi d'utiliser le nom IMC qui veut dire
Imperium Motor Corporel, oui.
Oui, c'est ça. Ah, Imperium Motor Corporation.
Oui, oui, oui.
Mais,
Imperium Motors Canada, en fait, parce que c'était la division.
Oui, c'est
là.
Ça, tu as raison. Alors, IMC n'est plus plus parce que ils ont perdu en cours. L'entreprise nord-américaine, en fait, qui est un importateur de véhicules chinois et qui se fait attendre depuis maintenant plus d'un an parce qu'on nous avait promis des livraisons en décembre 2021.
Je confirme que ça ne s'est pas, produit.
Puis ça n'arrivera pas dans les prochains mois non plus.
Non.
Alors, on change le nom pour Liteborn ou Liteborn.
Certain comment on doit le prononcer. C'est notre collègue du journal Le Soleil, Paul-Robert Raymond, qui a sorti la nouvelle. Effectivement, donc en cours, l'entreprise IMC a perdu. En fait, il y a une entreprise de Dolbo Mistassini qui vend des produits récréatifs électriques et qui utilisait le nom Imperium. Donc, ça force l'entreprise à refaire son site web, à détruire tous les objets promotionnels et tout ce qui pouvait utiliser le nom Imperium.
Puis c'est un nom utilisé à l'échelle nord-américaine.
Autant
au Canada qu'aux États-Unis.
Ouais.
Alors, je ne sais pas si la condamnation est uniquement du côté du Canada, mais ça me surprendrait qu'on utilise des noms séparés pour le marché canadien puis américain.
Et là, tu le mentionnais, là, on attendait des premières livraisons à la fin de l'année 2021. Le PDG au Canada, le dirigeant au Canada n'est plus Christian Dubois. Il a quitté. On faisait confiance à cet homme-là qui avait l'air d'être un fier ambassadeur du produit, de la marque, qui croyait énormément en la marque qu'il représentait. Je ne sais pas quel avenir attend cette marque, mais une chose est sûre.
Une chose certaine, c'est qu'au moment où on se parle, les véhicules ne sont toujours pas homologués.
Toujours
pas. Il n'y a pas eu de test, de crash test de fait pour les homologations. On est encore à des étapes de mise en marché, d'autorisation financière. Je pense que l'entreprise, financièrement, ça ne vole pas haut non plus. Alors, attendez-vous pas à voir ces véhicules-là sur la route dans les prochains mois. Et il y a plus de 1500, 2000 Québécois là, qui avaient mis des dépôts sur ces véhicules-là.
Et ce n'est pas mon cas, mais je te dirais que si j'en avais remis un dépôt, j'entamerais des démarches pour le récupérer et aller donner mon nom pour un autre véhicule électrique. Malheureusement, je n'ai plus... j'ai perdu confiance. Je n'y crois plus à ce projet-là. C'est dommage. C'était ambitieux.
Pis c'est surtout que ça va tellement être long avant que ça finisse par arriver que le véhicule, qui était déjà un peu limite sur le plan technique, va juste complètement être dépassé.
J'ai l'impression.
C'est avec un Chevrolet Equinox qui va se vendre à partir de 35 000 $. Tu veux faire quoi avec ce véhicule-là qu'on annonce à partir de 38 000? C'est spéculatif. Ça va être quoi dans la vraie vie? Puis bon, alors, tu sais, c'est ça.
Autre nouvelle cette semaine, en fait, ça s'est passé en tout début de semaine. Jay Leno a été gravement blessé lors d'un incendie, l'incendie d'un de ses véhicules. Il travaillait sur une de ses voitures, on ne sait pas laquelle, malheureusement, et le feu a pris dans la voiture. Il a été gravement blessé, mais il a été transporté à l'hôpital. Et
C'est un de ses amis mécaniciens avec qui il était, qui l'a sorti du brasier, là, littéralement.
Et on nous a assuré par la suite qu'il allait bien. Il allait prendre jusqu'à 2 semaines de convalescence pour se remettre sur pied. Je ne sais pas si tu as eu la chance de le rencontrer déjà, Jay Leno. Dans mon cas, je l'avais rencontré au fameux événement de voiture ancienne à Hershey en 2019, alors que je parcourais le marché aux puces à la recherche de trucs dont j'en avais absolument besoin. J'étais très fier et très content de rencontrer Jay Leno qui faisait exactement la même chose que moi, c'est-à-dire chercher des choses dont il n'avait absolument pas besoin. Il était assis dans un kart de golf et j'avais couru après pour aller le saluer.
Et laisse-moi deviner, il y avait une chemise de jeans.
Effectivement, mais sous un imperméable, okay. Parce qu'à Hershey, il pleut tout le temps.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Germain est allé faire l'essai en Californie cette semaine de la Kia Niro 2023 que j'avais ironiquement pu apercevoir sur les routes californiennes il y a quelques semaines. Mais là, c'est le début de la commercialisation du modèle qui va arriver chez nous dans quelques semaines à peine, là.
Oui, effectivement. Donc, en fait, c'est un lancement canadien qui avait lieu aux États-Unis. Aux États-Unis, elle est déjà en vente.
Ouais.
Donc, on avait pris un petit peu de retard de ce côté-là, du côté du Canada. Alors que le modèle de première génération commençait à s'étirer un petit peu, certains entrevoyaient que le modèle n'allait peut-être pas être renouvelé. On sait que chez Kia, on a la Rio, la Forte 5, le Soul, le Seltos et le Niro. Ça fait beaucoup de petits véhicules à 5 portes. Alors, est-ce qu'il y aura du ménage à faire de ce côté-là éventuellement? Possiblement, mais une chose est certaine, chez Kia, on a mis beaucoup d'énergie et d'emphase sur le Niro de deuxième génération.
Il faut quand même souligner qu'aux États-Unis, la Forte 5 n'est pas vendue et la Soul électrique n'est pas vendue non plus.
Non, mais au Canada, tout ça, on a tout ça.
Alors, la Forte 5, c'est, si tu veux mon avis, c'est la dernière année.
Elle revient pour 2023. J'ai l'impression qu'elle passera au bûcher, ce sera pas bien long.
Ouais.
Alors, comme par le passé, une gamme entièrement électrifiée pour le Niro, une version hybride.
On dit le ou la?
Moi, je dis le, toi, t'as dit la. Voilà. Alors, je pense qu'on peut y aller dans les deux sens.
OK, moi, j'ai une question.
Quoi?
C'est quoi ça, cette espèce de panneau horrible de couleurs contrastantes qu'on met en arrière? On essaie-tu de la faire passer pour une Audi R8?
Je suis content que tu qualifies ce panneau d'horrible parce que chez Kia, on n'arrêtait pas de nous casser les oreilles pour nous dire que c'était beau et que
c'est horrible.
Moi, personnellement, je trouve ça hideux. Ouais. Et là, j'ai beaucoup de misère avec. Et là, ce sont des propos qui n'engagent que moi, là. Mais j'ai beaucoup de misère avec bien des nouveaux véhicules coréens. Sur le plan du design, je sais que ce sont des véhicules qui vont bien, qui ont une technologie intéressante, mais les produits coréens de nouvelle génération, esthétiquement, j'ai l'impression qu'on s'en va dans tous les sens avec ça.
Ouais, on essaye.
On en met plein la vue et par expérience, ça vieillit assez mal comme ça. Et oui, on a un panneau à l'arrière qui a la forme un peu d'un boomerang, d'une couleur. Tout dépendant des versions, là, c'est gris foncé avec les arches de roue, les bas de caisse de la même couleur.
Mais tu peux l'avoir monochrome, le véhicule.
Oui, tu peux, mais visiblement, on est très motivé à le vendre en gris ou en noir chez Kia. Mais oui, ça rappelle un peu la R8, mais un peu la R8 que tu as commandé sur Wish, mettons. Là. c'est pas tout à fait réussi. Mais trêve de plaisanterie, on a une version hybride rechargeable, 100% électrique. Et ça, franchement, c'est une gamme qui est très, très intéressante.
Ouais.
L'hybride, on est à 29 995 $. Franchement,
quand même.
À l'époque où tout coûte extrêmement cher.
C'est le prix d'une Civic.
où tout coûte une fortune, ben là, tu te ramasses avec un Niro entre les mains, 5 portes, c'est pratique, ça consomme rien.
5 litres au 100.
Ben, on nous a dit 4,8, j'ai fait 5,3. J'ai l'impression qu'il y a sûrement moyen de passer en bas de ça. Franchement, c'est super intéressant. On a la version hybride rechargeable qu'on a bonifiée un peu pour 2023. Cela dit, on n'est pas motivé à en vendre chez Kia. On nous a dit que ça allait être la moins populaire. On ne nous a pas laissé la conduire. Ça, franchement,
okay.
je suis outré, je suis fâché. On avait des exemplaires sur place et il n'était pas question qu'on les conduise. On a conduit l'hybride, on a conduit l'électrique. Il y a une seule version, un seul niveau d'équipement pour l'hybride rechargeable. Bref, on nous dit qu'on en vend même chose
aux États-Unis?
Je ne sais pas pour le marché américain, okay. Mais au Canada, on a un seul niveau d'équipement. Donc, on nous dit qu'on n'en vendra pas beaucoup, mais je te confirme qu'on ne s'arrange pas pour en vendre beaucoup okay. non plus. 55 km d'autonomie comparativement à 42 pour...
Donc, un véhicule qui va être éligible à des crédits plus intéressants que par
oui,
le passé.
Donc, du côté du fédéral, on a déjà mis à jour la liste. Il aura droit au crédit. Même chose pour la version 100% électrique. Cela dit, au Québec, on n'a pas mis à jour la liste, mais quand on lit les critères...
Ça cadre,
ouais. Là, mais en même temps, il y a des trucs qui nous échappent. On avait parlé dans une autre tribune du duo Volvo S60, ouais. V60. Il y a des petits moments comme ça où on ne comprend pas trop ce qui se passe, mais tout porte à croire qu'effectivement ils auront droit là, au crédit autant fédéral que provincial. Alors, de ce côté-là, c'est intéressant. Petite note, la version de base du Niro électrique n'est pas muni de la pompe à chaleur. Alors, évidemment, là, ouais. pour de mémoire, c'est 2 500 $ de plus. On passe au niveau d'équipement supérieur et là, on a la pompe à chaleur. Je pense qu'au Québec, c'est un... on se pose même pas la question.
Mais c'est une seule autonomie annoncée.
Oui, une seule autonomie annoncée qui est un petit peu bonifiée par rapport au modèle sortant. On était à 385 km. On est à 407 km
bon.
pour le modèle 2023. Pourquoi pas? Franchement, je trouve ça très bien. J'ai noté ma consommation après avoir parcouru. Je le sais, c'est pas très scientifique. C'est pas beaucoup de kilométrage. On a fait 110 km avec le véhicule. Et au bout de ça, on avait une consommation de 13,5 kWh au 100 km.
C'est pas beaucoup.
C'est vraiment pas beaucoup. Je veux pas dire que je suis sceptique, mais c'est vraiment pas beaucoup. Je serais ouais. très curieux de le mettre à l'essai sur une période un petit
mais
peu plus...
Mais en Californie, au mois de novembre, il fait 18. C'est des conditions parfaites.
Oui, voilà. Et là, est-ce que j'ai pas noté le nombre de pentes qu'on a montées versus celles qu'on a descendues? mais je serais très curieux de le remettre à l'essai dans les conditions québécoises. J'ai beaucoup parlé du Niro. Je te laisse maintenant la parole pour parler du BMW X7 2023.
Bon, BMW X7 qui a été remodelé partiellement. J'ai pu conduire la version X-Drive 40i. Puis évidemment, BMW a toujours tendance à nous faire essayer des versions de performance. M50i. J'ai conduit la XB7 Alpina aussi, qui est une bombe épouvantable. Et là, d'avoir un 6 cylindres de 375 chevaux là-dedans, je me disais, ça va peut-être être un peu moche,
ordinaire.
Mm-hmm. Tu sais quoi? C'est ma version favorite.
Parce qu'on a un équilibre intéressant?
Ben voilà. Le 6 cylindres en ligne BMW, c'est un moteur exceptionnel en partant, mais dans ce véhicule-là, il fait un travail génial. Il y a de la souplesse, il y a de la puissance, c'est doux, ça va bien. On n'a pas des roues de 29 pouces comme sur les autres modèles. Là.
Voilà qui est intéressant aussi.
Cela dit, le véhicule que je conduisais avait l'option des roues de 22 pouces que je ne choisirais pas.
Mm-hmm.
Mais c'est un véhicule dont le comportement est très intéressant, super confortable. Bien sûr, on est autour de 100 000 $ pour cette version-là.
Mais c'est la norme dans ce segment-là.
Bon, on a modernisé, on a changé l'esthétique du véhicule un petit peu. Nouveaux écrans à bord, beaucoup plus modernes comme présentation, très efficace au niveau de l'ergonomie. Ça, j'ai bien aimé. La consommation, je m'attendais à mieux. Tu vois, j'ai fait une moyenne à 11,7 litres au 100.
Évidemment, c'est avec... énorme, là, un X7. Là, on ne peut ça, pas c'est... s'attendre à des miracles non plus. Là. On a un mastodonte à déplacer.
Oui, mais avec un 8 cylindres sur autoroute, tu aurais fait à peu près la même chose. Mm-hmm. Fait qu'il y a une limite de résistance au vent. Évidemment, c'est un gros véhicule imposant, alors comme tu disais. Puis, il n'y a pas d'hybridation encore dans cette version-là. Est-ce que ça va arriver éventuellement? Sans doute. Mais c'est clair que c'est un véhicule. C'est moins gros quand même qu'un Cadillac Escalade. Quand tu es au volant du véhicule, tu n'as pas l'impression de conduire un mastodonte américain. Et pourtant, c'est un peu ce qu'on veut rivaliser. On veut aller jouer dans les plates-bandes de Cadillac avec ce véhicule-là, dans les plates-bandes de Land Rover, évidemment, Mercedes GLS. Mais c'est un véhicule dynamiquement plus intéressant que la très grande majorité de ses rivaux. Puis c'est un peu pour ça que je le choisirais avant bien d'autres joueurs. Bon, avant Mercedes, ça, oui, c'est clair. Je conduirai dans les prochaines semaines le nouveau Range Rover. Mm-hmm. Alors, ça sera...
Qui a l'air assez prometteur.
Oui, qui a l'air assez prometteur. C'est sûr que le Cadillac Escalade, c'est une autre expérience complètement. Ça n'a rien à voir. C'est un authentique camion sur châssis indépendant. Mais l'X7, compte tenu de ses dimensions, c'est un véhicule dont la maniabilité est remarquable. Et puis, il y a un certain plaisir de conduire qu'on retrouve là-dedans, que tu peux pas retrouver ailleurs dans un véhicule aussi gros que ça.
Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
C'est assez particulier cette semaine parce que toi et moi sommes allés à Los Angeles pour des lancements de véhicules, mais de façon officielle, on n'a ni toi ni moi mis les pieds au salon de l'auto de Los Angeles pour la journée de presse.
Il faut le faire, hein? C'est assez particulier.
Ouais.
Là.
Alors, toi, tu étais là pour la nouvelle Niro. Ouais. Moi, j'étais là pour le lancement de la Porsche 911T. Que j'ai pu conduire d'ailleurs sur des routes carrément magnifiques. Là. Ceux qui ne connaissent pas le Angeles Forest Highway, allez faire ça.
Mais en fait, c'est que des lacets en Californie, il y en a tout plein. On a d'ailleurs roulé sur ces lacets-là en Kia Niro.
Ouais, ouais.
C'est peut-être une expérience un peu moins magique. Mais oui, effectivement, nous étions tous les deux en Californie, dans la région de Los Angeles, la semaine du salon de Los Angeles.
Sans y aller.
Mais l'horaire et les circonstances ont fait que
Moi, j'ai quand même mis les pieds au salon officiellement, mais une journée avant que ça ouvre pour la presse, parce que Porsche dévoilait en avant-première, avant l'ouverture du salon, la 911 Dakar, que j'avais très, très hâte de voir. J'étais curieux de connaître... Bon, on savait d'avance que c'était une voiture qui allait hériter de la mécanique de la 911 GTS 4.
Et ça, c'est bien.
Et c'est très bien parce que j'ai toujours dit que c'était la 911 la plus équilibrée. Le plaisir performance est au rendez-vous avec une GTS... à mon avis, plus que si on prend une Turbo S, une GT3, là où c'est des voitures radicales, tu sais.
Mais on faisait confiance aux ingénieurs et aux concepteurs pour ne pas dénaturer la voiture, ce qui aurait été facile de faire.
Ben,
là,
dénaturer la voiture.
Non, mais tu veux pas en faire un Jeep Wrangler, là.
C'est assez difficile.
En voulant faire une version entre guillemets tout terrain de la sportive la plus emblématique, on arrive sur un terrain un peu glissant.
Oui,
là.
Mais
il fallait pas la transformer en Cayenne.
Il n'y a que Porsche qui est capable de faire un truc comme ça. Évidemment, on s'est inspiré du passé. Porsche a gagné le Paris-Dakar en 84, en 86, avec la 911 4x4, la fameuse 911 Rothman. Mm-hmm. Et si vous regardez les images de la nouvelle 911, on a repris la même fonte et les mêmes couleurs.
Le même jeu de couleurs, mais pas l'inscription.
C'est ça, il n'y a plus de cigarettier impliqué. Là. Non, c'est écrit Rough Roads à la place de Rothman. Mais c'est quand même une... Puis en passant, cet ensemble de couleurs-là, c'est une option qu'on peut obtenir sur la 911 Dakar, mais au coût de 32 490. Et je vous donne d'emblée le prix de la voiture. 2500 unités fabriquées dans le monde entier pour deux années modèles, 2023-2024. Alors,
ce sera très, très exclusif.
Est-ce qu'il y en aura une centaine qui viendra au Canada tout au plus? Ça va ressembler à peu près à ça. Et ça part à 247 300 avant option, uniquement avec la boîte PDK. Il n'y a pas de boîte manuelle.
Est-ce qu'on est déçu de ça un peu?
Pas vraiment. Parce que je pense que dans le contexte d'une voiture comme ça, la PDK fait un travail extraordinaire. Et ce qu'on m'expliquait, c'est que les coûts d'intégration d'une boîte manuelle pour cette voiture-là, parce que c'est pas juste de placer la manuelle, le fait que la voiture soit plus élevée, que les angles mécaniques soient différents, il y avait beaucoup de travail à faire. Puis on estime qu'on aurait probablement même pas vendu 10 % de boîte manuelle. Mais c'est fascinant parce que la 911, pour les Européens, on vend très peu de boîtes manuelles.
Ah,
l'endroit dans le monde où ils se vendent le plus de boîtes manuelles pour la 911, c'est en Amérique du Nord.
Ah, ben ça, tu m'étonnes, vois-tu.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a ramené de façon un peu plus massive la boîte manuelle, parce que la demande est très forte.
Parce que vois-tu, traditionnellement, on dit toujours que la boîte manuelle est plus populaire en Europe qu'ici. Mais là, vois-tu, pour une voiture sportive, je suis très étonné d'apprendre ça.
Ben même qu'au Canada...
J'ai un peu d'espoir.
Ben oui, même qu'au Canada, la 911, c'est une majorité qui sont vendues avec des boîtes manuelles.
Parce que ce sont des voitures jouets qui servent peut-être plus rarement. C'est un troisième véhicule d'une famille.
C'est, en tout cas, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer ça, mais il y a plus de versions offertes avec des manuels. Là.
Et la 911, d'accord, on a vu les photos, il y a des contours d'ailes, du body cladding, là, comme on dit
esthétiquement,
en
les pare-chocs, le capot de la GT3 avec les prises d'air, les tours d'ailes, évidemment les feux arrière, évidemment toute la production de sous-bassement, des marchepieds aussi.
L'a surélevé aussi?
On l'a surélevé de 50 mm.
D'accord.
Mais on peut
D'accord.
Mais on peut la surélever jusqu'à hauteur de 80 mm par rapport à une GTS 4.
C'est assez haut.
Et il y a des modes de conduite hors route et rallye. Puis quand tu mets ça en mode rallye, c'est pas compliqué. La voiture se dandine, tu fais de la drift à haute vitesse avec ça, mais avec une stabilité incroyable. On a réduit la taille des roues, 19 pouces en avant, 20 pouces en arrière, avec des pneus Pirelli spécialement conçus pour cette auto-là.
Qui ont l'air d'être assez mordants.
Oui, assez agressifs. Mais tu peux choisir en option, chez Porsche, des pneus d'été et des pneus d'hiver qui sont aussi spécialement conçus par Pirelli. Alors, il y a ça comme truc qui est intéressant. Bon, on a intégré à la voiture le système de refroidissement au rendement de la 911 Turbo, mais pour le modèle, pour la mécanique de la GTS là, qu'on a là-dedans, parce qu'évidemment, cette voiture-là peut être assez malmenée. Les éléments de suspension ont été modifiés, mais ça demeure une conduite authentiquement sportive. Et, évidemment, il y a toute une panoplie d'accessoires qui peuvent venir avec la voiture, là, mais c'est...
Je l'imagine, moi, déjà, avec un support de toit.
Ben, c'est-à-dire que sur place, il y avait des accessoires support de toit. Il y avait même une 911 avec une tente d'installer sur le toit.
Ah, ça, c'est spécial.
C'est très cool. Fait que c'est ça. Puis là, Porsche, ce qui m'a fait rire, c'est qu'on a eu une entrevue avec les gens de Porsche, puis ils nous expliquaient qu'on fait une édition limitée à 2500 copies. On va voir si la réponse de la clientèle est positive. Et Dieu sait ce qu'on pourrait faire après. Mais tu sais, c'est au moment où je te parle, ils sont tous vendus. Là.
Ben voilà.
T'sais, on le dira pas, là, mais...
Et c'est une entreprise à but lucratif, là, Porsche. Là. Si on voit qu'il y a une demande intéressante, ben on va continuer, là. C'est pas étonnant.
Je regardais l'addition cette année de la 911 Dakar, de la 911T, qui revient aussi après près de 40 ans.
La gamme s'étend.
L'a jamais été aussi grande.
Ouais.
Je n'ai pas comptabilisé le nombre de modèles qu'on ajoute cette année, mais on m'a confirmé que c'était la gamme 911 la plus étoffée jamais offerte sur le marché.
Est-ce qu'on finit pas par se perdre, finalement? Ou chaque version est à ce point pertinente?
Rendu là, ouais. De bâtir...
Elles sont bâties sur mesure, de 900, toute manière. Là,
une 911, là, en bas de 150 000 $, t'as pas grand-chose.
Ah, ben non.
Alors, tu sais, puis ça va jusqu'à 350 000, là. Ça fait que c'est pas...
Chaque client la commande comme il la veut, là,
ben
donc
oui.
Rendu là, pourquoi
fait
pas, mais,
c'est...
c'est vrai que ça fait un catalogue très, très, très étendu.
Ouais, exactement. Mais tu sais, pour moi, la 911, la moins intéressante, ça reste une Turbo S décapotable à boîte PDK. Là, ça, c'est la 911 qui me parle moins.
Mettons. Mais pourtant, il y a un marché pour ça aussi.
Oui, absolument. Absolument. Fait que, c'est ça. Aussi. Bon, fait que ça, c'était un beau dévoilement.
Mais comme tu disais, un dévoilement presque en marge du salon.
Ben et l'ensemble ou la quasi-totalité, en fait, la totalité des voitures qui ont été dévoilées.
C'est un phénomène qu'on voit de plus en plus, donc, dans le cadre d'un salon. Et un exemple qui était assez frappant, c'était au dernier salon de l'auto de Détroit, la Ford Mustang. Elle a été dévoilée à Détroit, mais elle a été dévoilée dans le cadre d'un événement en parallèle au salon organisé par Ford, où tout était contrôlé par le manufacturier. Et c'est un peu ce qu'on observe de plus en plus. Chez Genesis, on a fait la même chose. C'est notre collègue Louis-Philippe Dubé qui était là sur le bord de la plage. On a dévoilé la Genesis Concept X convertible, une magnifique voiture.
Puis on a fait la levée de couverture au moment où le soleil se couchait.
Ben oui. Chaque photo qui a été publiée était magnifique. Absolument magnifique.
Ouais, c'est ça.
Franchement, on avait le souci du détail de ce côté-là. Et on sait que Genesis se positionne comme un manufacturier de luxe, évidemment. Mais là, quand on la regarde, on a l'impression d'avoir, je sais pas moi, une Jaguar, d'avoir une Aston Martin sous les yeux.
Mais Genesis s'en vient littéralement anéantir les trois marques de luxe japonaises. Là.
Oui. Complètement.
On commence à se moquer d'Acura. Bon, Infiniti,
mais c'est que là où on a été peut-être conservateur chez ces trois marques-là, puis on s'est assis sur le peu qu'on avait acquis, ben Genesis, avec toute la machine coréenne, pousse extrêmement fort. Et là, c'est ça.
Chez Lexus, tu regardes les grandes berlines.
Oui, mais on s'est assis sur nos lauriers longtemps Lexus. Là.
Parce que le cabriolet qu'on vient de dévoiler là, en quelque sorte, est-ce que ça pourrait rivaliser avec un coupé LC, un
cabriolet LC? Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus moderne avec cette voiture-là. Bon, c'est une étude de style. On verra pas ça en concession la semaine prochaine, bien entendu. C'est le troisième concept X.
C'est un précurseur, c'est ça. Fait que, tu sais, ça annonce quelque chose.
Ça annonce quelque chose, là. On est en train de défricher avec cette voiture-là. On a un empattement qui est très long, évidemment. Un long museau à l'avant. C'est une très, très belle voiture. Ça vaut la peine de regarder les photos. Et franchement, c'est rafraîchissant par rapport à tous les VUS qui peuvent être dévoilés ces temps-ci, de voir une voiture deux portes, décapotable, un nouveau modèle, là, pas une nouvelle génération d'une voiture, un nouveau modèle décapotable. Je ne me rappelle pas c'était quand la dernière fois. Franchement, chapeau à Genesis d'oser de ce côté-là. Maintenant, il ne reste plus qu'à la mettre en production.
Ouais, puis on va s'en reparler dans moins d'un an, j'ai l'impression, parce que Genesis, c'est pas une entreprise qui donne l'impression de prendre son temps. Là.
Non.
On fait les choses assez bien et assez rapidement.
Oui.
Alors, ça, c'était une belle surprise. Bon, évidemment, la voiture qui aurait fait couler beaucoup d'encre, encore une fois, en périphérie du salon, elle n'a pas été dévoilée au salon officiellement, mais elle est présente au salon, c'est la nouvelle Prius de Toyota, avec une ligne...
Qui n'a pas l'air d'une Prius, là. Ça ressemble à... pas à l'ancienne Prius, aux anciennes Prius. Ça n'a rien à voir. Et ce qui est assez... je dirais drôle, c'est qu'il y a quelques mois au printemps, j'avais été dans un fameux événement avec Toyota, un événement où il y avait un paquet d'affaires, mais finalement, on ne pouvait pas parler de rien. On avait vu deux véhicules. La Crown et la Prius.
OK. Puis donc, elle était identique à ce que
elle était identique à ce qu'on a vu. Elle n'était pas jaune canari on a pu voir sur la photo. Mais moi, j'ai vu il y a 5-6 mois la Prius mais on ne pouvait rien... En fait, on n'avait pas la confirmation que c'était la Prius, mais on savait très bien que c'était elle. Et malheureusement, on nous avait défendu d'en parler. Fait que c'était un peu un gros tease, si tu me permets l'expression. Alors, la grande grande nouveauté pour cette nouvelle génération de la Prius, c'est l'ajout d'une version... c'est la gamme de la Prius régulière est entièrement équipée des quatre roues motrices, ce qui vient la distinguer de la Corolla hybride, en quelque sorte, parce que on avait peut-être un peu l'impression qu'on allait cannibaliser des ventes de ce côté-là, mais bon...
Mais en même temps, et particulièrement pour notre marché... Oui. La Prius régulière ne se vendait pas.
Non, parce qu'on avait, bon, les subventions, évidemment.
Les subventions pour la Prime, mais sinon, ben, tu prenais un modèle 4 roues motrices.
Ben voilà, voilà. Alors là, peut-être qu'on essaie de la rendre un petit peu plus intéressante, tout simplement. On conserve un moteur à 4 cylindres atmosphériques, ça, c'est correct. Mais...
Il grimpe à 2 litres.
Oui, exactement. Ouais. Donc, on avait 1,8 litres auparavant, ça passe à 2 litres maintenant, et on nous a promis une consommation, tiens-toi bien, là, de 4,1 litres aux 100 km. Je ne sais pas jusqu'où on va être capable de descendre.
Pour un véhicule qui a plus de 200 chevaux, là, on est autour de 200 chevaux. Là, la puissance a grimpé énormément.
196
chevaux.
Donc, alors, c'est moins un veau qu'auparavant.
C'est
là,
beaucoup plus puissant. Ouais. C'est 4 roues motrices. C'est évidemment une voiture un tantinet plus grosse qu'avant. Ouais. Et on va être capable d'avoir une consommation d'essence à 4 litres au 100.
Ouais,
bon, l'ancienne Prius, moi, j'avais fait 3,8 litres
oui,
au 100
oui,
pour
oui,
un modèle attraction.
Oui,
mais ça veut dire qu'on sera capable de faire encore un peu mieux que ça.
Assurément.
On est dans une voiture qui est très intéressante. Et le modèle hybride rechargeable,
ben voilà,
juste
arrivais,
encore plus le fun.
J'y arrivais. C'est pas la seule nouveauté. On nous a présenté également la Prius Prime. De son côté, on nous a promis une autonomie qui allait être bonifiée d'environ 50%.
Donc, ce qui amènerait l'autonomie totale électrique à quoi, 60 km
oui,
autour d'eux?
C'est ce qui est calculé en ce moment. Tout d'un coup, ça devient franchement intéressant. On l'aura dans quelle disponibilité? On sait que les véhicules hybrides rechargeables sont extrêmement prisés. On s'est fait un peu prendre au piège avec le RAV4, si tu veux mon avis.
Ça veut dire qu'avec une autonomie de 60 km, autant du côté du fédéral que du provincial, on va donner les pleins crédits applicables pour un véhicule hybride rechargeable, donc 10 000 $ taxes incluses.
Si on se fie effectivement aux critères en vigueur actuellement, ce serait le cas.
Donc, au Canada, il faut s'attendre à ce que la Prius Prime
ait droit aux 5 000.
Oui, au Canada, puis oui. Au Québec, on aurait le 5 000 aussi. Donc, ça veut dire que le prix serait rabaissé.
Mais là, attends, on n'a pas eu les prix.
On n'a pas eu les prix,
Elle sera plus chère que jamais, la Prius. Ça,
oui,
je te le garantis.
Mais avec 10 000 d'écart, avec 10 000 de subventions,
oui.
Le prix pourrait être rabaissé au niveau de celui d'une Prius régulière, là, clairement. Là.
Oui, assurément. Là, je n'ai pas la donnée sous les yeux, mais je crois que la Prime, elle, ne sera pas 4 roues motrices.
Elle n'est pas 4 roues motrices.
Donc, ce sera quand même la grande différence entre les deux. Mais effectivement, avec les crédits, on viendra probablement arriver au même prix, peut-être même moins cher. Mais la grande différence, en tout cas pour le Québec, pour un marché comme le Québec, le jeu des quatre roues motrices est important.
Bon, une chose, on est content. Là, il y a un nouveau système d'infodivertissement. La voiture est beaucoup plus moderne. Elle est au goût du jour. Elle est aussi beaucoup plus belle qu'avant. Je te dirais pas que c'est du tout... Tu sais, je faisais le parallèle la semaine dernière. Je parlais de l'ancienne Mirai versus la nouvelle qui est très belle. On n'est pas à ce niveau-là. Je trouve pas qu'on est passé d'un...
C'est très futuriste comme approche.
C'est très élancé. Ouais. L'inclinaison du pare-brise, c'est quelque chose. Là. Ouais. Je serais curieux de voir l'angle. C'est sûr que c'est une voiture très aérodynamique, mais je ne la trouve pas aussi jolie que la nouvelle Mirai.
Non, non, non. T'sais? On n'a pas une berline avec une présence aussi forte.
Non.
Là.
Mais ça demeure une voiture pas mal plus désirable que l'actuelle Prius que tu achètes de façon purement pécuniaire. T'sais, tu le fais pour des raisons
rationnelles. Avec aucun amour. Là.
C'est ça.
Il n'y a aucune émotion en jeu quand on se procure une Prius en ce moment-là.
Non, c'est ça.
Je ne te dis pas qu'il y en aura beaucoup avec le modèle de nouvelle génération.
Ça ne peut pas être pire.
Mais peut-être un peu plus. Autre nouveauté à laquelle on a eu droit jeudi au courant de l'après-midi, c'est la nouvelle génération de la Subaru Impreza qui ramène l'appellation RS.
Bien, qui ramène l'appellation RS dans la mesure où on va offrir dans l'Impreza le moteur 2,5 litres. C'est un peu à contre-courant. Ouais. Parce que
c'est rare qu'on augmente la cylindrée d'une voiture.
Tu sais, quelle
ce
est
moment,
l'autre
là?
Voiture compacte qui offre une cylindrée de la sorte? C'est la Mazda 3.
Oui.
Puis on peut pas dire que les ventes de la Mazda 3, ça explose de ce temps-là.
Non, c'est assez, modeste.
Subaru, c'est pas compliqué. Là. On s'est inspiré de ce qu'on fait avec la Crosstrek. On s'est dit, on va faire une version RS plus puissante. Il y a des gens qui se plaignent du fait que l'Impreza n'est pas assez puissante. Parfait.
C'est vrai que c'était pas très, très puissant. Là.
Alors, on va avoir le 2 litres.
Et ce sera une version aussi, assurément, plus chère. Donc, et le moteur 2.5, ça fait longtemps que la recherche et le développement ont été rentabilisés. Si on peut l'offrir, c'est les normes permettre encore de l'offrir. Pourquoi ne pas l'offrir si on constate une demande de ce côté-là?
Bon, alors on avait vu la Crosstrek 2024 qui avait été dévoilée au Japon. Elle sera identique à celle, à celle qui sera vendue en Amérique du Nord. Alors l'Impreza, on se demandait à un certain moment donné si elle continuerait sa carrière. Tellement la Crosstrek connaît du succès.
Et tellement on a étiré aussi, j'ai l'impression, l'Impreza sans trop la faire évoluer, sans mettre d'emphase sur cette voiture-là non plus.
Ouais.
Je me demandais si on n'allait pas l'étirer un 2 ans de plus, puis tout arrêter ça là. Mais visiblement, on est très motivé chez Subaru
avec ce modèle-là.
À continuer dans la lignée des compacts. Cela dit, la berline n'existe plus.
Non, éliminée pour la berline. Ça, c'est une voiture qui ne revient pas. On va conserver que la Legacy comme berline chez Subaru.
Est-ce qu'on a une idée à quoi ressemblaient les parts de marché, la séparation des ventes de la berline par rapport à la version à Hayon?
Je ne sais pas aux États-Unis, mais au Canada, on parle d'au moins 75 % de ventes. Là.
Pour le Hayon. Mais aux États-Unis, on sait que traditionnellement, on préfère la berline plutôt qu'une voiture.
Mais la clientèle Subaru est très différente d'une clientèle traditionnelle.
C'est certain.
Alors, j'ai l'impression qu'on...
On peut comprendre cette décision-là.
J'ai l'impression que les gens devaient faire davantage le saut vers une Legacy de base que d'acheter une Impreza bien équipée berline.
Tout à fait.
Alors, tu sais, il y a eu une décision en ce sens-là aussi qui a été faite, mais c'est une décision logique. En ce qui me concerne, de toute façon, l'Impreza hatchback est juste plus intéressante en ce qui me concerne.
Ouais.
Mais je suis content de la voir revenir.
C'est très autre, heureux.
Elle aurait pu disparaître, là.
Elle aurait pu disparaître. On a pris la décision de continuer. Le bémol que je souligne, c'est la disparition de la boîte manuelle, par contre.
Oui, c'est ça. Puis... on aurait pu aussi peut-être arriver avec une version hybride ou hybride rechargeable, emprunter la technologie qui existe, disons, dans une Crosstrek, bien qu'elle soit pas très convaincante. On a décidé de pas le faire. Alors, c'est uniquement des versions à essence traditionnelles. Voilà. Bon, là, il y a eu une annonce.
Comme ça, le Fiat peut en faire.
Bon, alors Fiat qui avait dévoilé l'année passée une version Yacht Club de son modèle 500X.
Oui.
Et je serais vraiment curieux de savoir s'il existe des 500X 2022 au Canada, si ça existe officiellement. Mm-hmm. Fiat est une compagnie qui vit sur le respirateur artificiel
en Amérique du Nord.
Nord là.
Oui, parce qu'ailleurs dans le monde, c'est correct.
C'est ça.
Mais en Amérique du Nord, on n'a aucune idée de ce qui se passe avec cette marque-là. Les studios Fiat, donc les portions dans les concessionnaires Stellantis, ont été transformées en studios Jeep.
C'est mort, là.
On a complètement écarté la marque en Amérique du Nord. On se disait que c'était terminé. Entre les branches, on avait compris que on n'officialisait pas le retrait de Fiat en Amérique du Nord parce que on avait des contrats avec les réseaux de concessionnaires.
C'est ça.
Mais là, revirement de situation au
la
salon
500
de l'auto.
Revient sur le marché. La 500 de nouvelle génération qui est vendue en Europe depuis quelques années, elle revient chez nous pour 2024.
C'est à ne rien y comprendre.
C'est une sous-compacte.
C'est comme la Fiat qu'on a déjà connue, mais légèrement évoluée.
Ouais.
Donc, la même toute petite voiture à deux portes, mais elle revient en version électrique. On n'a eu aucune donnée technique cette année. Il faudra attendre l'année prochaine pour en avoir. Ce sera fort probablement un modèle 2024 et on
mais
on y
ça
comprend
va être,
rien.
Tu sais, à une époque où les petites voitures électriques sont appelées à disparaître, on sait que la Bolt, ça vit sur du temps emprunté, ouais. La Leaf aussi, les petites voitures électriques sont appelées à disparaître, ben, l'arrivée de cette voiture-là, moi, je trouve ça intéressant.
Mais en même temps, elle va être vendue. Elle va être vendue où, là? Comment?
Ben,
là?
En fait, t'sais, est-ce la qu'on va en avoir?
Ouais.
Est-ce qu'on va être motivé à en vendre? Mais c'est clair.
Qu'est-ce qu'on aura aussi comme autonomie? On va avoir 150 km d'autonomie. Écoute, ça aura l'air de quoi, là? Ouais. Est-ce qu'on va faire comme un...
Si on fait 250 km d'autonomie avec cette voiture-là...
mon Dieu! T'es optimiste,
mais
là.
Ça va être correct. T'sais, je veux dire,
oui,
c'est
mais ce sera pas ça, là.
À suivre.
Ce sera pas ça.
Ce qui est sûr, c'est que...
Ce qui est sûr, c'est qu'on a tous été très surpris.
Stellantis a besoin d'un véhicule électrique et ça urge. On n'en a pas dans le catalogue. C'est long avant qu'on puisse débarquer avec la Chrysler Airflow, avec tout ce qu'on nous a présenté comme véhicule.
Il y a un Jeep électrique qu'on veut.
Oui.
Amenez-le, c'est tout.
Ça va être 90 000 $.
Non, le petit jaune, là.
Tu penses que ça va...
Avenger, c'est le nom qu'on lui a donné.
Recon.
C'est quoi le Avenger?
L'Avenger, c'est le modèle qui va être vendu en Italie.
En Italie, c'est voilà. Mais le plus petit, justement, là, ce petit-là, là, pourquoi on ne l'amène pas ici plutôt que de nous amener une Fiat 500?
Ben, on va l'amener. Oui. Mais ça va être vendu 70-80 000.
Ouais,
c'est
ouais.
Ça, l'affaire. T'sais, alors là, on va être capable d'amener ce véhicule-là ici rapidement. Il existe en Europe.
Puis on va nous la vendre seulement 44
995 $. On verra, mais...
Ah, mais je suis très, très sceptique.
Je suis plus optimiste que toi, moi.
Je suis tombé en bas de ma chaise, puis je suis surtout très, très, très sceptique. Tiens, on dit un chat échaudé craint l'eau froide. Là, on a été vraiment échaudé avec Fiat. Je n'y crois absolument plus.
Non, moi, j'y crois un peu plus que toi.
C'est
enfin,
correct.
Bref. Bon, dernier dévoilement qui a été fait... officiellement au salon de Los Angeles, mais c'est une voiture qu'on avait déjà vue, mais
ouais.
Bon, c'est le dévoilement officiel nord-américain, c'est l'IONIQ 6, avec des chiffres qui ont été dévoilés, et ça, c'est assez intéressant. L'IONIQ 6 utilise la même plateforme que l'IONIQ 5, c'est une berline. On la compare directement avec une Model 3 de chez Tesla,
ouais.
Peut-être avec la Polestar 2 également.
Avec la nouvelle Volkswagen Aero aussi qu'on avait vue, qui avait été dévoilée, si tu te rappelles, la même semaine que la IONIQ 6 en Corée. Donc, ça semble...
Mais la Volkswagen Aero...
sera peut-être plus grosse, là.
Ben, pas peut-être. Je peux t'en parler, mais non officiellement. Parce
d'accord.
Que...
Attends, je vais fermer le micro.
Oui, c'est ça. Alors, moi, j'ai pu voir la voiture physiquement dans un événement privé en périphérie du salon cette semaine. Elle va officiellement être dévoilée au CES le 3 janvier prochain. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une grosse voiture.
Mm-hmm.
Attendez-vous au format d'une Arteon, là, carrément.
Ouais.
Là. Voiture à 5 portes, mais avec une autonomie qui pourrait atteindre 700 km selon les normes WLTP. Donc, ça veut dire quoi, 550 km? Volkswagen va l'amener chez nous. Je ne pense pas qu'on s'attend à faire des chiffres extraordinaires avec ça, mais...
peut-être plus aux États-Unis.
Mais c'est une voiture qui va être uniquement fabriquée en Allemagne.
Oui, oui, oui.
Et puis, la Chine y aura droit avant nous, l'Europe y aura droit avant nous, bref. Mais ça n'a rien à voir avec l'IONIQ 6, qui est une voiture plus petite,
okay.
Plus compacte, très stylisée, extrêmement aérodynamique, et c'est ce qui fait qu'on peut aller chercher une autonomie de 500 km, 499 officiellement,
mm-hmm.
avec la version à 4 roues motrices. Et
547 dans le cas de la version propulsée, parce
c'est
que
pas rien, là.
Comme la Tesla Model 3 qu'elle tentera de rivaliser,
ouais.
On aura effectivement une version propulsée, une version à 4 roues motrices, 320 chevaux dans le cas de la version à 4 roues motrices,
ouais.
Et 225 chevaux dans le cas...
C'est exactement la mécanique de l'IONIQ 5. Là.
Ouais,
c'est
ouais,
exactement la même chose.
Mais dans une approche différente, un format différent. Et est-ce que ça pourrait tranquillement amener la Sonata vers la porte de sortie?
Pour le marché américain, c'est difficile à dire. Parce
oui,
que
parce qu'on en vend...
On en vend encore.
Oui, t'sais, c'est tellement un grand volume... Au total, les berlines intermédiaires, même si on a une petite part d'un très gros marché, ça représente un volume
ouais.
intéressant. Mais,
chez nous, c'est autre chose.
Mais si on, ouais. on réussit à avoir une IONIQ 6 qui a justement là, une autonomie intéressante, un format intéressant, un prix intéressant, dans un format qui plaît aux Américains,
Parce qu'on est dans des dimensions semblables à celles de l'Elantra, là, avec ça.
OK.
Mais avec un design qui est quand même plus joli, à mon avis, personnel.
La portion arrière est assez spéciale, mais ça demeure audacieux.
Bilan du salon de l'auto, il y a eu plus de dévoilement que ce à quoi je m'attendais, parce que je m'attendais absolument à rien.
Franchement,
Il y a un vrai salon à Los Angeles cette année. C'est-à-dire que oui, il y a des constructeurs qui ne sont pas présents, mais il y a quand même un vrai salon, un événement qui vaut la peine d'être visité. Ce qu'on n'aurait certainement pas pu dire de Détroit.
Voilà.
Ça donne peut-être le ton sur New York aussi. J'ai hâte de voir.
La comparaison est très facile à faire avec celle de Détroit. Et pour moi, il n'y a même pas justement de point en commun avec les deux événements. À Détroit, on l'a échappé complètement.
Ouais.
On n'était pas dans le coup. Non seulement on n'était pas dans le coup sur le plan de la presse, dans le sens où on n'avait rien à présenter aux médias, mais en plus, on n'avait rien à présenter à monsieur, madame, tout le monde qui allait se déplacer au salon, parce qu'il y avait seulement 5 constructeurs qui étaient présents. Là, au salon de Los Angeles, il y avait plus de marques qui étaient présentes, et on a présenté davantage de modèles, des primeurs nord-américaines, bien sûr, mais des primeurs mondiales tout court aussi. Alors, pour moi, c'est une belle surprise. Je pense qu'on peut le dire ainsi, parce qu'effectivement, mes attentes n'étaient pas très, très élevées après avoir vu le salon de l'auto de Détroit. Alors, il y aura peut-être un avenir pour ce type d'événement.
Puis un constructeur qui était présent et qui a pris beaucoup de place à Los Angeles cette année, c'est VinFast.
Oui,
les grosses bannières, plusieurs véhicules sur place, possibilité d'en faire l'essai.
Tu sais, percer le marché nord-américain quand tu es une marque asiatique que personne ne connaît, c'est un défi, c'est un énorme défi. Alors, on n'aura pas le choix, effectivement, de se faire connaître.
Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars, le guide de l'auto.
Antoine, terminons l'émission avec quelques questions des auditeurs. On aurait Jean qui nous demande s'il serait mieux d'attendre le Toyota Corolla Cross hybride 2023 ou d'opter pour un Ford Escape hybride.
C'est intéressant parce que la Corolla Cross hybride, on sait que c'est un véhicule dont la consommation va être même un peu supérieure à celle du RAV4 hybride, aussi drôle que ça puisse paraître. On va être à 6,3, 6,4 litres au 100 de moyenne, alors qu'avec le RAV4, on est à 6,1. Et le Ford Escape hybride consomme moins que la Corolla Cross hybride. Et il est disponible immédiatement. Donc, la Corolla Cross hybride, ça sera un véhicule intéressant, clairement, mais n'attendez pas ce véhicule-là dans l'optique d'avoir un véhicule plus économique à la pompe, ça ne sera pas le cas. La fiabilité va être au rendez-vous. C'est un véhicule qui va garder une super valeur.
Les listes d'attente de clients doivent déjà être pleines.
C'est clair. Mais le Ford Escape hybride, pour moi, c'est un véhicule méconnu. Si un véhicule efficace chez Ford, c'est bien celui-là. Et j'ai absolument pas de problème à recommander l'achat d'un Escape hybride, autant pour son rendement, sa consommation que sa qualité de fabrication. Cependant, traitement de sirouille, si vous voulez le conserver.
Puis peut-être Ford... une petite pellicule 3M. Hein?
Bon, mais on n'a pas...
Juste pour s'assurer que la peinture demeure en place.
On ne nous a pas encore prouvé chez Ford qu'on était capable de faire des véhicules qui ne rouillent pas après 5 ans. Alors moi, parce qu'on a un collègue, là. En fait, un ami à nous qui s'appelle Paul et qui a un Escape 2018 qui commence à rouiller. Puis qui est un véhicule bien entretenu. Là.
C'est malheureux, mais c'est la réalité.
Alors Ford, c'est ça le danger. Mais c'est un véhicule très efficace. Alors, personnellement, si vous êtes intéressé par l'Escape hybride, j'attendrai pas nécessairement la Corolla Cross. J'irai vers l'Escape, qui va être aussi un véhicule, on va se le dire, plus confortable.
Là. On a Christian qui demande s'il est préférable de charger la batterie d'un véhicule électrique à l'intérieur ou à l'extérieur par temps froid.
C'est évident que c'est à l'intérieur. C'est sûr que le froid a un impact négatif sur une batterie de véhicule électrique. Clairement. Est-ce que de le charger à l'extérieur, c'est un problème? Non. Mais vous allez...
Si on a la possibilité d'installer le chargeur à l'intérieur...
Vous allez prendre plus de temps pour recharger le véhicule à l'extérieur. Et il y a un impact sur, évidemment, la durée de vie de la batterie aussi. Alors, si vous êtes à l'intérieur, c'est juste plus efficace à tous les niveaux.
On a Kenny qui nous mentionne que sa conjointe et lui vont accueillir un troisième enfant. Ils ont l'œil sur un Ford Explorer Sport 2014 de 187 000 km. Est-ce un véhicule fiable?
Ouf! Il y a eu pire chez Ford, honnêtement. C'est un véhicule très gourmand. C'est un véhicule, encore une fois, très fragile au niveau corrosion. Alors, vérifiez-le comme il faut, parce que sous toutes les moulures de plastique, il peut y avoir bien des trous, puis on ne les voit pas. Alors ça, c'est important de le faire. Mais mécaniquement parlant, c'est pas un véhicule particulièrement problématique. Faut juste faire une bonne inspection et comprendre que c'est un véhicule qui demande un entretien sérieux, un entretien qui peut coûter quand même assez cher parce qu'il y a des gros freins sur ce véhicule-là, il y a des gros pneus, c'est la version sport, donc c'est quand même assez performant et ça consomme énormément d'essence. Vous êtes assurément dans les zones de 15 litres au 100. Là. Alors ça, sachez-le, si c'est un véhicule à budget que vous cherchez, peut-être qu'il vaut mieux regarder un véhicule dont le niveau de performance est moindre, mais avec une consommation plus raisonnable puis des coûts d'entretien qui sont peut-être un peu moins élevés. Cela dit, si le véhicule vous intéresse, le prix est intéressant, bien, c'est pas un véhicule catastrophe. Là. Un Explorer 2020, par exemple, c'est un véhicule que ça, on peut pas le recommander parce qu'il y a eu énormément de problèmes. Mais en 2014, on avait déjà réglé une bonne partie des bobos qu'on avait connus sur la nouvelle génération lancée en 2011.
Merci beaucoup, Antoine. Bonne fin de semaine.
Bon week-end.
Cube Radio.